Merci d'être présent et puis de remplir l'église de Wavrin ce matin. Je vous remercie. Et voilà, c'est les vacances pour beaucoup. Pour d'autres, c'est encore le travail. Chacun son tour, on va dire. Alors voilà, Seigneur, je voudrais faire cette prière. Seigneur, toi l'Éternel qui a créé le monde, qui a créé la terre, qui a créé les hommes. Voilà, Seigneur, je te demande aujourd'hui de nous donner une flamme qui puisse nous réveiller en tant que chrétiens. Oui, Seigneur, je te demande cette petite chose qui est très importante pour nous tous. Amen. Alors, vendredi, j'étais à Lille et je travaille. Et c'est difficile de se garer à Lille, très très compliqué. Mais bon, j'ai trouvé une place, j'ai mis mon petit appareil pour dire je paye. Et puis, je suis revenu à ma voiture parce que je vais aller charger, décharger. Je reviens à ma voiture et je vois un papillon comme ça. Je dis une amende. Ça y est, je m'en suis payé une. Et en fait, voilà, il s'agit de ça. Il s'agit d'un petit papier comme ça. Alors je lis. Seul qui est capable de faire des miracles. Wouh! Professeur Faliba. Misère, je dis ça y est. Médium, africain, voyant, sérieux et compétent. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais il nous promet vraiment des choses extraordinaires. C'est ce qui est donné au monde. C'est ce que les gens reçoivent sur leur pare-brise. Et certains croient en ces paroles et vont aller voir Fabala. Et puis, voilà. C'est une drôle de vie que propose Fabala. Nous avons Jésus dans notre vie et nous devons proclamer Jésus partout, là où nous allons. Il faut proclamer. Lui, il est miraculeux. Lui, il va nous sauver. Lui, il nous libère. Fabala, c'est un charlatan. Alors, je vais continuer avec Claude Houd, qui a écrit un livre « Seigneur, augmente notre foi ». Je m'inspire beaucoup de son livre parce que voilà, pour moi c'est plus facile d'avoir un support et de travailler dessus. Aujourd'hui, on va voir la foi avec une révélation qui ouvre le ciel. Voilà. Donc on va, si vous voulez, on peut regarder à Ésaïe chapitre 58 au verset 7 à 10. Ésaïe, chapitre 58, versets 7 à 10. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, la lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les mauvaises paroles, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira du milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. Oui, Dieu utilise puissamment nos expériences pour façonner nos vies de chrétiens. C'est à nous, chacun d'entre nous, d'être attentif, d'être à l'écoute au projet de Dieu que Dieu a pour nous. Claude Houd nous montre à travers trois expériences comment Dieu lui a rappelé qui il était, à quoi et surtout à qui il était appelé. Donc je vais donner les trois expériences de Claude Houd. Claude Houd, en commençant son ministère, il a dû passer par une formation en théologie pastorale dans un collège biblique. Puis après, il a fait un stage dans une église. Et dans cette église, un jeune homme nommé Marcel donna sa vie au Seigneur sous son ministère. Eh bien, Claude Hood était très fier. Et il essayait au mieux de l'aider comme il pouvait. Marcel avait de graves problèmes de toxicomanie et il vivait presque dans la rue. Il avait une petite amie, un fils de 2 ans et désirait s'en sortir. Il voulait arrêter la drogue. Sa petite amie, sa mère de son garçon, commençait à venir à l'église avec lui. Marcel était très pauvre, démuni, portait chaque jour les mêmes vêtements. Il sentait pas bon. Ses dents étaient dans très mauvais état et il avait une haleine fétide. Son amie l'aimait. Elle souhaitait bâtir une vie avec Marcel et leur fils. Le pasteur Claude Hood ne savait pas quoi faire. Il n'avait rien. Et l'église était sans ressources. Un jour, à la fin d'une réunion, un dimanche soir, Marcel s'était avancé. Et Claude Hood avait passionnément prié pour lui. Puis Marcel lui posa cette question. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire, Marcel? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je vais où? Qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Et je le fais, je vais le faire. Et le pasteur Hood était vraiment très embarrassé. Quelle réponse pouvait-il donner? On revient à l'église dimanche prochain. Mais il savait pertinemment qu'il était dans la rue. Sa compagne se prostituait. Tous les deux se piquaient à la cocaïne. Et face à une telle situation, le revient dimanche prochain semblait ridicule. Quelques semaines plus tard, Marcel se suicida. Il laissa une note à l'intention du pasteur. Merci Claude, merci à l'église. Je suis sûr que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Signé Marcel. Claude Hood se souvient des longues nuits où il criait à Dieu. Il faut faire plus que ça. La deuxième expérience se passe en hiver. Il fait extrêmement froid, moins 30, moins 40. Un vent a coupé le souffle. Claude Hood habite au Canada, hein, donc il fait froid là-bas. Hein. Le pasteur Claude Hood se rend à une église où se déroule une rencontre de pasteurs. Alors qu'il rentrait dans l'église, une femme surgit de nulle part. Elle tenait dans sa main 2 enfants, un petit garçon et une petite fille. Ils étaient tous les trois vêtus de petits blousons d'été, des bottes de printemps, et portaient ni gants ni chapeau. Elle était terrorisée, elle criait et tremblait de froid. On a couché dehors, il nous a mis dehors. Mon mari, il est fou, il nous bat. On vient d'arriver de notre pays, je ne sais où aller. Dites-moi où je dois aller, dites-moi. Et l'homme qui avait ouvert la porte de l'église était complètement de marbre. Il dit, sortez d'ici, on ne peut pas vous aider. On ne peut rien faire pour vous, c'est pour les pasteurs. Mais la femme, elle insistait. On pouvait voir dans une pièce à côté des pasteurs qui mangeaient leurs croissants et dégustaient leur petit café. La femme et les enfants pleuraient, ils avaient des gelures sur le visage. Le portier s'impatientait et essayait de se débarrasser d'elle. Et soudain, le portier de l'église saisit la femme par les épaules en la regardant droit dans les yeux. Il l'interrompit en levant le ton et dit « Madame, regardez-moi, écoutez-moi, nous sommes une église, nous ne pouvons rien faire pour vous. » C'est violent. Je ne vous dis pas ce que Claude Hood dit, je vous le laisse comme ça, brut. C'est une réalité, c'est ce qu'il a vécu. La troisième expérience faite par le pasteur Claude Hood, c'est la rencontre avec le pasteur David Wilkerson. Il est auteur de La Croix et le Poignard. Donc beaucoup de personnes ont lu le livre ici, je suppose. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est très bien. Claude Hood est en demande de conseil pour débuter son église. Alors il faut imaginer la scène. Ces deux pasteurs qui sont dans la rue, dans une rue new-yorkaise, c'est la nuit, c'est bondé, c'est illuminé comme en plein jour. C'est un truc énorme. Tout à coup, Pasteur Hood se jette à l'eau. Il va poser sa question. Pasteur Dave, nous débutons notre église bientôt. Avez-vous une clé à me donner? Un conseil à me partager? Bref, s'il y avait quelque chose que je devrais faire ou quelque chose que je devrais savoir, quelle serait-elle selon vous? Pasteur Dave s'arrête net. Il commença à dire avec une intensité inouïe et une passion brûlante. Tu veux le savoir? Tu veux savoir quelle est la clé? Est-ce que tu veux vraiment le savoir? Plusieurs autres me l'ont demandé. Ils m'ont pas cru. Ou ils m'ont écouté, mais ils n'ont pas mis en pratique. Ils ont essayé, ou alors ils ont essayé, mais ils se sont découragés. Tu veux vraiment savoir? Là, Claude Hood, dans son livre, avoue qu'à ce moment précis, il n'était plus certain de vouloir vraiment savoir. Mais c'était trop tard. Il répondit avec une voix incertaine, « Oui, j'aimerais savoir. » Tout à coup, son expression et son ton changèrent. Tout son visage s'illumina, comme un enfant qui connaissait un trésor, un secret. Le pasteur Dave s'exclama, « Trouve les pauvres, donne aux pauvres, aide les pauvres. Mets ton corps et ta passion à aider les gens qui ne pourront jamais te le rendre. » Un temps d'arrêt. Et avec une joie absolue, le pasteur Dave ajoute, « Et alors, regarde comment bien Dieu te bénira. » Regarde. Alors ces trois expériences vont bâtir effectivement le pasteur Claude Hood. Et voilà comment il a démarré son église avec l'église nouvelle, qui est donc l'église de pasteur Hood. Et leur mot, leur pensée, c'est « Trouve ceux qui souffrent, mets tout ton cœur à les aider et Dieu te bénira. » Et c'est ce qui les a motivés depuis plus de 15 ans maintenant, et ils sont plus de 5000 aujourd'hui. Ils ont démarré à 20. Voilà. Alors je dirais pour nous, dans nos prières personnelles, on pourrait demander à Dieu qu'il augmente d'abord notre foi. Et puis, tout simplement désirer que Dieu allume une petite flamme dans nos cœurs, cette flamme qui va grandir et qui va nous permettre de nous dépasser. Abraham était un homme animé avec la foi et une révélation qui ouvre le ciel. Il savait que la foi sans les œuvres est morte. C'est important de comprendre ça. La foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. C'est utile peut-être, mais il faut aller plus loin. On va aller dans Genèse 14, verset 14. Genèse 14, verset 14. C'est très court, hein. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Dès qu'Abraham eut appris, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas. Il ne trouve pas d'excuses. Il ne met pas ça au lendemain. Non, il n'attend pas. Il ne se cache pas derrière son manque de ressources. Il y va. Il arme 318 personnes et on y va. L'apôtre Paul nous interpelle dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 12. Paul nous dit quelque chose d'important. « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Bon, moi ça m'a... J'ai dit qu'est-ce qu'il veut dire par là. Heureusement Claude Hood, il donne des pistes. Paul nous rappelle aux Corinthiens que les intentions véritables, lorsqu'elles sont sincères, sont prouvées non dans ce que nous n'avons pas, mais dans ce que nous avons de disponible actuellement. Ça veut dire quoi, concrètement? Aider quelqu'un aujourd'hui avec ce que vous avez. Tout simplement. Et là, ça devient puissant parce que, voilà, on n'a pas de limite. On n'a plus de limite dans cette partie de l'histoire parce que on va aider quelqu'un avec ce qu'on a aujourd'hui. Bon, après voilà, c'est un pas de foi qu'on doit faire, hein. La foi avec une révélation qui ouvre le ciel refuse tout simplement de continuer à dire non. Abraham arma 118 plus pardon, Abraham arma 318 de ses plus braves serviteurs. Et là, il est intéressant de noter que le nombre exact est mentionné. Je crois profondément que Dieu connaît chaque croyant ou église qui aide ceux qui souffrent. Dieu semble désireux de nous faire savoir avec une infinie précision que chaque personne compte. Chacun d'entre nous compte. Je prends un exemple. La narration du miracle au chapitre 3 de Néhémie. Néhémie énumère méticuleusement tous ceux qui rebâtissent la muraille détruite. Et la liste, elle semble interminable. Je pense que Dieu veut nous dire par ce texte que chaque nom, chaque cœur généreux est précieux. À d'autres endroits des Écritures, les textes nous révèlent la liste précise des donateurs et ce qu'ils ont offert aux démunis. Dieu illumine même un seul garçon très spécial, celui qui donne 5 pains et 2 poissons pour aider à nourrir la multitude affamée. À ce moment-là, Jésus enseigne la multitude et les nourrissait spirituellement. Alors qu'il leur communiquait la vie et les principes éternels, un besoin matériel, humain, essentiel se manifestait. La foule avait faim. Et les disciples sommaient Jésus de renvoyer la foule. Renvoie-les dans les villes pour qu'ils puissent avoir à manger. Et Jésus laissa ses disciples, prends-toi. Il les étonna lorsqu'il leur commanda, donnez-leur vous-même à manger. Leur réaction a été prévisible. Nous n'avons pas de ressources. Ce que nous avons est minuscule et le besoin gigantesque. Jésus leur donna une des clés de cette foi avec une révélation qui ouvre le ciel. Allez chercher et donnez ce que vous avez. Pour nous, commençons avec ce que nous avons. La provision suivra le pas de foi. Le miraculeux ne précédera pas le ministère. C'est vraiment nous qui devons démarrer. L'abondance divine suivra l'abandon au Seigneur et à la décision. Je reviens sur ce petit garçon qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Plusieurs sources historiques disent qu'il y avait à l'époque de Jésus des milliers d'enfants abandonnés, vivant dans la pauvreté. Il apparaît que le peuple, le temple, les temples religieux, que les instances politiques et les gouvernements de l'époque avaient mis en place ce système où chaque enfant, chaque semaine, avait une maigre pitance. Juste assez pour ne pas mourir de faim. Et l'expression 5 pains, 5 poissons était utilisée pour décrire ce qu'on donnait aux enfants pour une semaine. Voilà. Alors, il est fort possible que l'enfant qui a donné aux disciples les 5 pains et les 2 poissons, peut-être que c'était un enfant de la rue, justement, qui avait reçu son paquet et qui l'a donné. Voilà, je ne sais pas. Mais c'est une expression qui était donnée à l'époque. En fait, quelque part, si c'est ça, ce garçon a donné tout, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. C'est cela la foi avec une révélation. Une révélation qui ouvre le ciel. C'est ce genre de sacrifice qui produit le surnaturel. Dieu a déjà préparé des bénédictions extraordinaires pour nous. Il a déjà des œuvres préparées d'avance pour ceux qui mettront leur foi en action avec une révélation qui ouvre le ciel. On peut demander à Dieu de nouveau d'allumer cette flamme en nous, dans notre cœur. Nous ne savons pas, pour nous aujourd'hui, nous ne savons pas par où commencer, ni quoi faire pour Wavrin, pour notre Église. Nous sommes si peu nombreux et les besoins sont si grands. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de grand talent. La Bible nous dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Eh bien, je crois que nous devons nous encourager, les uns les autres, de regarder d'une part quels sont les besoins particuliers de notre ville, Wavrin, et quels sont nos talents ici. Et d'autre part, de connaître nos ressources et nos possibilités afin que nous puissions être inspirés à faire quelque chose. Et donc c'est vraiment quelque chose de... Voilà, à travailler ensemble. Je ne sais pas où on va, mais le Seigneur va nous éclairer. Alors, il y a 2, 3, 4 semaines, je ne sais plus, j'ai déjà témoigné, le Seigneur a préparé des choses pour nous. Voilà. Et moi, j'ai une petite expérience à vous donner, à vous communiquer. Il y a 4 semaines peut-être. Sabine, c'est ça à peu près? 3 semaines? Oh, papa, c'est pas très gênant. Il est midi, je suis au travail, j'ai terminé mon travail et je suis pas très loin d'un magasin où je vais régulièrement, un Intermarché à l'homme, et j'y vais. J'arrive au parking, je me gare à une place tranquille et je descends et j'entends crier sur le parking et des injures. Et c'était un jeune homme qui injuriait le vigile, un noir, et vraiment il l'injuriait de façon... c'était... Ouais. T'étais pas bien. Et donc je passe devant ce couple qui s'engueule et je m'en vais. Je vais faire mes courses. Et quand je reviens après avoir fait mes courses pour manger mon petit sac de sandwich, mon petit dessert et ma boisson, je vois le jeune homme assis à 10 mètres de ma voiture. Il n'y avait rien entre ma voiture et lui, il n'y avait pas d'obstacle. Et je dis, oh non, pas lui, non. Alors je suis là avec mon paquet, je me déplace. Et j'ai pas envie de le regarder, j'ai pas envie de discuter avec lui. Et voilà, il m'appelle. Hé, toi là, mec. Il était bourré, hein. Il était pas bien du tout, ce garçon. Bon, je m'arrête, je le regarde, il s'avance vers moi, il vient. Et puis il me dit, voilà, ouais, il m'emmerde, c'est un con, il m'empêche de mendier là, enfin de demander ma pitance ici. Bah, je dis, oui, mais pour comprendre, bon, lui fait son boulot, ouais, c'est un con, il en veut qu'à moi, voilà. Bon, ça faisait plusieurs fois qu'il venait, qu'il m'explique son histoire. Et puis après, à un moment donné, il m'explique sa situation. Il est SDF depuis peu de temps. Sa femme est décédée dans un accident avec ses deux enfants. Un drame. Et ce drame ne s'arrête pas là parce qu'il m'explique que sa femme venait de le quitter avec un autre homme et que c'était fini, quoi. Leur histoire d'amour, c'était fini. Et donc, dans le coma, la femme décédée, les deux enfants décédés. Donc, il ne lui restait plus rien. Dans le travail qu'il avait, ça s'est délité. Il s'est retrouvé à la rue très vite. Il a vendu sa maison, son appartement pour payer les obsèques à sa femme et à ses enfants. Et il est à la rue. Il me dit, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Mais j'ai dit, en moi-même, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Moi, je n'avais pas envie de parler de ça, quoi. J'avais faim. J'avais envie de manger. J'avais envie d'être tranquille. Mais Seigneur, Seigneur. Et puis À ce moment-là, peu de temps après, je ne peux pas dire, mais je vois sur l'avant-bras du garçon, ici, une petite croix. Ah, je dis, Seigneur, là, ouais, bon, il y a un signe. Et je demande au garçon, c'est quoi cette croix que tu as sur le bras là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il me dit, je suis croyant, mais je ne vais pas à l'église. Oh, ça rentre là, hein. Et je vais commencer à dire, mais écoute, est-ce que tu veux que je prie pour toi? C'est pas grave que tu vas pas à l'église, c'est pas grave, mais est-ce que tu veux que je prie pour toi? Il me dit oui. Et là, je pense que le ciel s'est ouvert. Parce que j'ai prié pour cet homme. Que dire? Ben, j'ai appelé au secours. Au secours, Seigneur, au secours pour cet homme, pour sa vie. Voilà. Je sais pas, ça a duré un quart d'heure peut-être, je sais pas. Cet homme, après avoir prié, il m'a dit, j'étais impressionné, il m'a dit, j'ai été violé. Enfant, j'ai été violé. Il m'explique que son éducateur l'avait violé. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Un homme qui avait l'autorité sur les enfants vient violer les enfants. J'ai de nouveau prié pour cette libération. Et après cette prière, bon, lui, son intérêt, c'était « Donne-moi des sous, je veux boire un coup. » Il était pété, il voulait continuer. J'écoute, non, je ne te donne pas d'argent. Je prie pour toi et je prierai encore dans les semaines à venir pour toi, pour ta libération. » Et il avait pas des projets, mais il avait déjà il avait des rendez-vous avec une assistante sociale. Et je lui ai dit « Écoute bien les conseils qu'elle te donne, voilà, qu'elle puisse au moins te guider dans... tu puisses t'en sortir. » Voilà, le ciel s'est ouvert pour cet homme. Et je prie pour lui régulièrement, je ne veux pas dire tous les jours, c'est pas, mais régulièrement, je pense à Olivier, il s'appelle Olivier, c'est facile pour moi de prier pour Olivier. Donc voilà, Olivier. Alors, le Seigneur, je crois qu'il faut vraiment être attentif à ce que demande le Seigneur. Le Seigneur nous met sur notre route des possibilités, des ouvertures, et je crois qu'il faut les saisir. Voilà. Alors là, le Seigneur, il est venu me chercher, il a dit non, tu vas parler à cet homme, hein, parce que c'est vraiment viens discuter avec moi, j'ai pas pu faire autrement. Voilà, merci Seigneur. Ouais. Alors, on va finir avec Joël 4, chapitre 9, 14. Proclamez ceci parmi les nations, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, ceux qui veulent devenir des héros, et que les faibles disent maintenant je suis fort. Que mon peuple se réveille et se rassemble dans la vallée de la décision. Avec ce texte, Claude Hood nous invite à devenir des héros, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Alors, ce n'est pas la peine d'être extraordinaire. Ce n'est pas dans le sens héroïque et faire des choses extraordinaires. C'est d'être héros, c'est-à-dire, voilà, de se mettre en route et de faire des choses. Et d'être en accord avec les paroles et nos actions. Ils font des travaux. Voilà. Donc, je vous invite, chacun d'entre vous, à être des héros à la mesure de ce qu'on est. Voilà. Et donc, le texte nous dit bien aider quelqu'un avec ce que l'on a. Et tant pis si on n'a pas le plus. Dieu pourvoira. Voilà. Donc, je vais prier. Alors, merci Seigneur pour ces paroles. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, dans chacun d'entre nous. Et je te demande, Seigneur, pour notre Église, pour chacun d'entre nous, que tu puisses mettre cette flamme qui fera de nous des héros ordinaires, des héros de tous les jours où on pourra proclamer ta parole et où on pourra agir aussi pour le bien de chacun. Voilà, quelles que soient les personnes que nous rencontrerions, qu'on puisse à un moment donné être... Voilà, un passeur qui puisse donner soit une parole, soit à manger, soit... Ça peut être très concret, je ne sais pas, Seigneur, mais tu nous mettras ça sur nos cœurs, sur nos vies. Voilà, je te présente ça. Que chacun d'entre nous, voilà, puisse recevoir cette flamme. Que ça ne soit pas quelque chose d'obligé, non, ça soit quelque chose que notre cœur soit totalement en accord avec ce qu'on va donner, ce qu'on va... Voilà. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci. Voilà, soyez bénis chacun. Merci, au revoir.